Merci à l'équipe d'Entrevue qui nous fait l'amitié, l'honneur de nous accueillir et aussi à la MSH, bien sûr. C'est un grand plaisir pour moi de revenir dans ces lieux que j'ai fréquentés dans ma jeunesse, auxquels m'attachent d'ailleurs des souvenirs pas toujours heureux, mais ça, c'est mon affaire personnelle. Alors oui, cette couverture, je vais commencer par là, a une histoire, enfin une petite histoire en l'occurrence. C'est une photo que j'avais prise lors d'un voyage que nous avions fait, Nassim et moi, à Buenos Aires pour préparer le terrain d'une convention qui nous lie depuis à l'Université des Arts de Buenos Aires. Quand je dis nous, c'est le master de géopolitique de l'art et de la culture que j'ai l'honneur de co-diriger avec Nassim. Et donc nous étions rendus à Buenos Aires et évidemment nous avions joint l'utile à l'agréable en nous baladant un peu dans les rues. Et il se trouve que Buenos Aires, si vous connaissez, est une rue qui est une ville qui pratique beaucoup le street art. Il y a énormément, dans certains quartiers en tout cas, d'œuvres, de fresques murales. Et donc ça, c'est une des fresques que j'avais prises en photo. C'est un agrandissement. Hein. La photo initiale, originale, est moins proche du mur. Donc on a recadré la photo pour enlever un endroit qui n'avait pas sens en fait par rapport à la thématique de la revue. Et effectivement, c'est une photo. Alors, toujours discuter du bien fondé ou de la pertinence de telle ou telle photo pour illustrer une couverture. C'est une photo qui a, disons, l'avantage ou la caractéristique de résumer d'une certaine façon certaines des thématiques du numéro. Beauté corporelle, beauté féminine aussi, et en même temps une beauté qui est médiatisé par un support qui est particulier, qui est le mur d'une ville, donc avec aussi une dimension évidemment sociétale, collective, ce n'est et artistique bien sûr. Donc il y a une forme finalement de mise en abîme de la thématique à travers cette couverture. La vérité m'oblige à dire que ce n'était pas le choix que nous avions fait initialement. Hein. Nous avions un autre visuel en tête, mais pour des questions de droit, nous n'avons pas pu finalement retenir ce visuel. Donc, on s'est rabattu sur cette photo, mais finalement, je ne suis pas mécontent, même si, après, évidemment, c'est une question justement de goût. On pourrait tout à fait juger que les couleurs, les formes, etc., ne sont pas forcément représentatives de ce que chacun entend par beauté. Encore un mot de présentation sur l'origine finalement du dossier. C'était au départ un séminaire, colloque, j'ai toujours du mal à qualifier ce type de réunion, à la Fondation des Treilles en mai 2021. La date est importante, c'était juste, mais vraiment juste, au sortir du confinement, enfin du dernier confinement qui nous avait été imposé par les autorités pour des raisons certainement très légitimes. Mais toujours est-il que quelques jours encore avant le colloque, nous n'étions pas sûrs d'aller au Treille. Les trains ont recommencé à rouler quasiment la veille de notre départ. Donc c'était vraiment très particulier hein, de se retrouver enfin physiquement avec des collègues dans un lieu enchanteur. Alors, je ne saurais trop vous recommander d'aller voir sur le site de la Fondation des Treilles quelques photographies de ce que l'on y voit, du paysage dans lequel on s'y trouve. La Fondation des Treilles, je le rappelle, c'est une fondation adossée donc à une grande famille française qui a donné en fait une partie de son argent pour, en termes de mécénat, en quelque sorte, soutenir cette fondation qui accueille donc chaque année, un peu sur le modèle, toute proportion gardée, de Cerisy, du Cerisy-Lassalle, qui accueille donc chaque année des colloques, souvent des colloques scientifiques au sens sciences dures, des chimistes, des physiciens, etc., mais aussi qui s'est ouvert depuis quelques années aux sciences humaines et sociales et à l'histoire. Et c'est d'ailleurs à l'occasion d'un précédent colloque là-bas sur la démocratisation des lettres que j'avais découvert le lieu et je m'étais dit, d'abord, comme tout le monde, je pense, j'avais vraiment un coup de cœur pour cet endroit magnifique. Et je m'étais dit, mais s'il y a un thème que ce lieu appelle, un thème de débat, de colloque, de rencontre, de réflexion collective, c'est la beauté. Voilà. Parce que ce lieu lui-même, on parle parfois du génie du lieu, mais là, c'est vraiment le cas. On est vraiment dans le cas d'un lieu qui impose, en quelque sorte, sa beauté formelle, sa beauté plastique, sa beauté de paysage naturel et en même temps complètement culturel, complètement façonné par l'homme. Et donc, c'était un cadre idéal, je pensais, pour organiser cette rencontre. Alors, quelques-unes des personnes qui ont participé à ce colloque donc de mai 2021 sont autour de cette table. Il s'agit bien d'une table ronde pour une fois. Souvent, on fait une table ronde autour des tables carrées, mais là, elle est bien ronde. Je vais les présenter de ma droite à ma gauche, par exemple, en commençant par l'invité surprise, car il n'était pas censé être là ce soir. Il nous fait la surprise et l'amitié d'être là. Pierre-Joseph Laurent, anthropologue à l'Université de Louvain-la-Neuve, si je ne me trompe pas, qui a fait beaucoup de travaux sur beaucoup de terrains. Il nous dira d'ailleurs un mot, et plus qu'un mot, j'espère, de son article qui, justement, couvre un peu différents terrains de recherche. Donc voilà, un anthropologue, un historien d'art, je crois qu'on peut le présenter comme ça, Bruno Nassim Aboudrar, donc que les étudiants ici présents connaissent bien, puisqu'il co-dirige donc avec moi le master de géopolitique de l'art et de la culture. Et Bruno Nassim a proposé donc un article, et il était là donc au Treil également, et il a proposé un article sur, au titre magnifique, La beauté inquiète, sur la conception que les peintres, en particulier français du XVIIe siècle, pouvaient se faire de la beauté. À ma gauche, immédiatement, une collègue qui, malheureusement, n'était pas là au Treil, mais qui nous aurait fait beaucoup de bien à y être, Florence Gerchanoc, qui est historienne donc de l'Antiquité grecque à Paris Cité. C'est le dernier nom à la mode, en vogue de son université. Florence donc a très, très gentiment et très simplement accepté d'écrire un article un peu impromptu en quelque sorte, sur les... Alors, pas les concours de beauté exactement, mais sur, au fond, la conception de la beauté dans l'Antiquité grecque. Elle nous le dira mieux que moi évidemment, confrontation entre beauté corporelle et beauté morale ou beauté intérieure. Donc elle nous en dira évidemment beaucoup plus dans quelques instants. Marco Martella, qui était là au Treil, jardinier, écrivain, directeur de la revue Jardin, membre de l'Institut européen des jardins et des paysages. Donc Marco est venu donc au Treil pour nous parler. Alors, je l'avais invité parce que je connaissais ses travaux, j'avais déjà lu, je connaissais la revue, j'avais déjà lu certains de ses livres, et ça m'intéressait beaucoup d'entendre un jardinier parler de beauté, parce que, bon, là aussi, c'est une histoire personnelle. Je suis très sensible personnellement à la beauté des jardins, des parcs. Quand je vais dans un pays étranger, c'est toujours là-bas que je vais d'abord regarder, visiter donc un parc ou un jardin, et éventuellement après le château, mais presque le parc m'intéresse plus. Et donc, voilà, je connaissais un peu ses travaux, et je lui ai demandé de venir un peu parler de la beauté en tant que jardinier et en tant que aussi, alors à la fois praticien et théoricien, on peut dire ça, des jardins. Donc, merci Marco. Et enfin, Camille Couvry, sociologue, maîtresse de conférences en STAPS à l'Université de Saint-Étienne, je ne me trompe pas, voilà. Alors, Camille n'était pas là au Treil, mais elle a accepté, là aussi, de faire un article que j'ai trouvé tout à fait passionnant sur les concours de beauté. Et là, cette fois, au sens plein et je dirais entendu du terme, et je trouve qu'évidemment ça a ajouté beaucoup aux premiers articles que nous avions au départ. Alors évidemment, certains des participants, des intervenants au Treil donc non seulement ne sont pas là ce soir, mais n'ont pas non plus forcément toujours rendu un article. ça fait partie des vicissitudes quand on compose un numéro de revue. Hein, on sollicite des gens, les gens vous disent oui, ça va venir, ça va venir, ça va bientôt venir, et finalement ça ne vient pas. Et donc on se retrouve malheureusement sans l'article espéré. C'est dommage, il y avait vraiment, je ne vais pas vous allécher, mais des thématiques tout à fait passionnantes qui n'ont pas pu du coup trouver place dans ce dossier. Mais c'est pas bien grave, puisque de toute façon, donc grâce au renfort qui nous a été apporté, grâce aussi à d'autres articles que je ne vais pas tous énumérer, la revue va circuler et puis vous pourrez regarder très précisément le sommaire. On a organisé finalement ce sommaire en trois parties, trois ensembles. Un premier ensemble qui interroge la notion de beauté entre nature et culture, et avec cette question de la menace, de la beauté menacée. C'est-à-dire, beaucoup d'articles ont cette thématique. Je pense notamment au premier article qui ouvre le numéro, hein, du Christian Gaudin, le philosophe Christian Gaudin, qui a une vision assez radicale, disons, de ce qu'il appelle l'enlaidissement généralisé du monde. Ce propos n'engage que lui, et je trouve qu'il est intéressant en tout cas, il mérite d'être questionné. Et grosso modo, un certain nombre d'articles de cette première partie interrogent donc cette notion de menace et de destruction, disons, de la beauté. Il se trouve que j'ai moi-même donc écrit un article dans le numéro sur la beauté considérée par les écrivains du voyage. Et là aussi, cette notion de beauté menacée, cette beauté en voie de destruction du fait de l'action humaine, est évidemment très très présent dans ces écrivains dont je parle dans l'article. Il y a une deuxième partie qui porte sur la beauté corporelle, alors notamment donc les articles de Camille et de Florence, donc beauté corporelle et également de Pierre-Joseph. Font, voilà, le corps comme capital ou la beauté comme capital, à la fois engagé dans des stratégies matrimoniales ou des stratégies de valorisation ou des stratégies de survie, en fait, aussi, tout simplement, par toute une série de populations. Bon, on ne va pas entrer encore trop dans les détails, mais c'est une thématique, évidemment, qui est aujourd'hui extrêmement présente dans nos sociétés, hein, à travers toute la question de la chirurgie plastique, par exemple, ou des concours de beauté, etc. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans la plupart des articles de cette deuxième partie, c'est qu'ils montrent que les problèmes sont souvent beaucoup plus compliqués ou complexes qu'ils ne paraissent à première vue. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une vision assez dépréciative, assez spontanément dépréciative, par exemple des concours de beauté, en disant que c'est une forme d'asservissement de la femme ou d'assujettissement, etc., etc. Et en fait, mais Camille le dira encore mieux que moi, il y a aussi des stratégies de valorisation, d'émancipation, à travers ces manifestations. Donc, bon, et on pourrait multiplier les exemples et les contre-exemples finalement de cela. Et puis une troisième partie, alors sur la beauté du costume, c'était au départ, hein, on avait pensé autrement, bâtir autrement l'architecture du numéro, mais finalement les deux, alors, articles et entretiens qui composent cette troisième partie se répondent de manière assez intéressante autour justement donc du costume, de la parure, hein, avec un article d'une chercheuse roumaine, si je ne me trompe pas, Veronica Redini, sur le Made in Italy et la façon dont les entreprises italiennes font fabriquer des vêtements, des chaussures, des meubles, etc., dans des usines qui sont situées souvent hors d'Italie pour des questions de réduction des coûts. Et comment finalement il y a une sorte de hiatus ou de contradiction entre cette image très positive et très esthétisée de l'Italie qui est renvoyée par ces industries et puis la réalité aussi du travail salarié et de la chaîne de valeur capitaliste qui est constituée à travers ces entreprises. Et puis donc on a un entretien avec, ça y est, les noms m'échappent, mais ils sont dans la revue, Gondola et... je vais retrouver le nom parce que quand même Didier Gondola, voilà, et Emmanuel Charpie, sur la sape congolaise. salle congolaise, pour ceux qui ne connaîtraient pas le phénomène, hein, c'est une, un mouvement culturel. Alors, où le costume a une importance énorme, mais il y a aussi toute une dimension musicale, chorégraphique, etc. Enfin, c'est un mouvement culturel plus large, mais où effectivement le costume tient une place essentielle avec un soin extrême. Hein, c'est une sorte de dandy voilà, en Afrique, avec le soin extrême porté à la parure et avec là aussi un message assez complexe à la fois de d'appropriation de codes culturels occidentaux et en même temps de rejet de ces codes culturels. Et donc c'est un très très bel entretien, j'ai trouvé très très complet, très fin, et qui apporte beaucoup d'informations, je trouve, sur sur genre, ce phénomène social. Voilà, j'ai trop parlé, je m'en excuse, mais je voulais quand même présenter un peu l'ensemble du numéro. Et je vais tout de suite donc passer la parole à chacun des intervenants pour qu'ils nous présentent. Alors ils choisiront, soit ils résumeront à grands traits leur article, soit ils se focaliseront sur un point particulier qui leur semble particulièrement significatif, mais pour vous mettre en appétit en quelque sorte et vous donner envie de lire l'article en question. Alors, je vais commencer là, comme j'ai présenté, par Pierre-Joseph.
Merci Laurent, ça c'est vraiment très agréable, mais j'ai quand même eu quelques minutes pour penser le temps que tu ouvres le débat. Alors cet article, c'est le fruit de, on pourrait dire, d'un cumul de différents terrains ethnographiques. Je suis vraiment un ethnographe, beaucoup plus qu'un théoricien. J'ai plusieurs terrains, notamment dans les îles du Cap-Vert, au Brésil, et très longuement au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Et je vous donne quelques pistes de ce à quoi la beauté je me suis affronté à cette question sur ces différents terrains. Alors, je démarrais par le Brésil, le plus lointain par rapport à ici, je crois, fut pour moi un avalement de ma salive lorsqu'ils m'ont raconté, lorsque j'étais dans le Brésil des plages où j'enquêtais, pour d'autres raisons, ça a été l'idée de « tu dois abandonner l'idée d'une beauté intérieure ». L'idée de quelque part, ce qui compte, c'est quelque part ce que tu rayonnes intérieurement. Tu es littéralement les formes que tu affiches. J'étais en train d'enquêter dans des plages et ils me regardaient, sapé comme j'étais, avec le corps que j'étais. J'exagère à peine. Hein. Et ils me regardaient en disant « qu'est-ce que tu fous là ?» quoi. C'était vraiment ça qu'ils m'adressaient comme regard. J'étais déplacé. C'était vraiment ça. Et puis, on pourrait dire de fil en aiguille, et j'ai commencé à enquêter dans les salles de musculation au Brésil. Et puis, j'ai été enquêté à l'époque du président qui est revenu maintenant, Lula, qui avait financé, en fait. C'est ça qui était incroyable. Il avait, à l'époque, financé pour les filles et les fils du peuple la possibilité de la chirurgie plastique, où il remboursait via des ONG certaines interventions. Et ça, chirurgicales. En disant, mais si vous vous faites refaire, vous pourrez vous imposer là où d'autres finalement s'imposent par leur statut social, si vous voulez. Et donc, imposez-vous par le corps. C'est quand même fantastique de se retrouver dans une société où on entendait parler comme ça, littéralement comme cela. Et c'est ça qui m'a troublé, en fait. Et le début de mon enquête sur ce sujet a été dans ce Brésil-là. Et au même moment, je termine un long terrain au Burkina Faso. Et en même temps, j'ai dû quitter ce terrain en raison de la montée de l'insécurité. Et puis, je suis parti travailler dans les îles du Cap-Vert. Mais au Burkina Faso, donc, j'ai ça en tête, ce Brésil. Donc, étant lusophone moi-même, je vais d'une zone à l'autre, quoi. Donc, c'est une vie un peu comme ça, entre différents mondes. Et au Burkina Faso, je vis littéralement depuis une bonne quinzaine d'années, je peux dire ça comme ça, l'écroulement progressif des alliances, des systèmes de parenté traditionnels. Dans le village de Koukinka où j'ai résidé, j'avais une maison jusqu'au moment où les problèmes actuels ont fait que je n'ai plus pu y aller. Progressivement a émergé la possibilité pour les jeunes filles et garçons de choisir le conjoint qu'ils voulaient. Antérieurement, c'était impossible. C'est-à-dire que c'était les aînés, la génération précédente, qui choisissaient l'alliance, en fait, et qui construisait le mariage. Et donc, ce qui est absolument incroyable, c'est que les jeunes n'avaient rien à voir là-dedans. Et au fur et à mesure que les années passaient sur ce terrain, ces alliances coutumières s'écoulent progressivement, et alors émerge un sujet que je ne m'imaginais même pas, je parlais couramment le moret à l'époque, a commencé à émerger la question, et alors comment on doit faire? Il faut séduire. Alors les corps vont commencer à avoir de l'importance. Et c'est ça qui était incroyable. Je vais commencer à avoir comme sujet, dans le village de Koulkinka, la question de la beauté. Et ils vont m'expliquer que maintenant, on est obligé de séduire. Et ils vont m'expliquer, et c'est des sujets qui sont absolument, je dirais, pas très sympas à mettre sur le tapis, c'est que quelque part, il y a une hiérarchie. C'est ça qui est incroyable. Ils vont m'expliquer clairement. Certains vont trouver tout de suite à se marier et d'autres vont trouver beaucoup plus difficilement. Et à ce moment-là, ce qui est incroyable, je suis spécialiste de la parenté, des systèmes de parenté. Je ne vous ai pas expliqué ça. J'ai écrit des bouquins très techniques, presque mathématiques, sur les systèmes de parenté, qui étaient mon domaine. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils vont me raconter dans ce moment-là, alors à quoi servaient les alliances traditionnelles. Donc j'étais très... D'ailleurs, j'avais étudié en partie, moi aussi, ici, dans ce même bâtiment. Et le plus incroyable, je connaissais bien les théories classiques de la parenté. Et je leur demande, mais alors, à quoi servait la parenté? Et ils se retournent vers moi, mais enfin, tu ne le sais pas. La parenté coutumière servait et faisait en sorte que chacun pouvait obtenir un conjoint. Mais je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Mais regarde maintenant, certains qui, quelque part, sont trop vieux, ont perdu leur conjoint. Certains qui sont estropiés, je reprends leur phrase, hein. Certains qui sont malades, certains qui sont laids, aujourd'hui, excusez-moi de parler comme ça, hein, mais aujourd'hui, ils sont seuls, ils vivent seuls. Tu vois à quoi servait l'alliance coutumière? À faire en sorte que chacun ait un conjoint. Et donc, il n'y avait personne laissé en dehors, en fait, du système, je dirais, de parenté et de la sécurité sociale qu'on pourrait appeler coutumière. À quoi servait l'alliance? À protéger tout le monde. C'est la réponse qu'ils m'ont faite. Et donc, je suis parti comme ça à travailler sur cette réflexion. À quoi servait l'alliance coutumière? À fermer les yeux, comme ils me disent. Ils vont me dire, ça servait à ne pas regarder. Tu fermes tes yeux. La beauté n'a aucune importance et ça ne peut pas en avoir dans une société coutumière. Bien sûr, elle est omniprésente, mais on la cache. Elle devient alors, évidemment, elle reflue vers un ailleurs. Et au même moment, je l'ai croisé ici même dans le bâtiment, sortait le bouquin de Cai Wa. Je ne sais pas si vous le connaissez, l'ethnologue chinois qui avait écrit un bouquin, puis on s'est connu, il m'a invité en Chine, il a travaillé chez les Na en Chine. Et au même moment, je lisais son ouvrage, et c'est une société sans père ni mari. C'est le titre de, je ne sais pas si vous connaissez son célèbre ouvrage, c'est une société sans alliance. Et donc je lui pose la question, mais toi où il n'y a pas d'alliance, est-ce que la question de la beauté a de l'importance? S'il n'y a pas de mariage, mon hypothèse peut-être que l'alliance sert à coincer quelque part la question de la beauté, faire en sorte que tout le monde reçoive un conjoint. Et je veux dire, et chez toi, là où il n'y a pas d'alliance, est-ce que quelque part cette situation de la beauté libérée pourrait jouer un rôle? Le plus incroyable, c'est que la question lui est parue quasiment, elle est passée à la trappe, il ne se l'est pas posée. Et le plus incroyable, c'est que je repère dans son ouvrage une note en bas de page, où il disait que dans ces 7-8 villages où il avait travaillé, il y avait certaines femmes qui avaient un physique éclatant, qui recevaient tous les amants des 7-8 villages, et d'autres qui n'en recevaient pas. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Je lui ai envoyé un message, et qu'il m'a dit, bah, viens enquêter toi-même en Chine, je t'emmène là-bas, et tu pourras voir si ta question que tu as ouvert au Burkina Faso, et puis découvert dans les salles de bodybuilding au Brésil, a un certain sens. L'article discute un peu de tout ça, en fait, de manière un peu parfois, un peu où je passe d'un sujet à l'autre, et même en RDC où je suis allé aussi. Voilà, merci.
Merci, on peut faire aussi,
oui, on croise dans l'autre sens. S'il vous plaît.
Merci.
Ça se répond bien,
oui,
c'est vrai.
Oui. D'accord. Donc moi, je me suis adonnée vraiment à une coupe très franche dans le texte et je vais essayer de m'y tenir un petit peu pour qu'on tienne les délais. Donc merci tout d'abord à Laurent Martin de m'avoir invité à contribuer au dossier. Et donc j'ai proposé une contribution à partir d'une revue de littérature pluridisciplinaire à propos des concours de beauté, avec l'objectif de mettre en lumière les enjeux qui se reflètent et se cristallisent dans les concours, notamment en termes d'identité, d'enjeux culturels et politiques. Et donc, partout dans le monde, en fait, des concours de beauté sont organisés à différents échelons et promeuvent ce que l'anthropologue Richard Wilk dit, de promeuvent des identités collectives. Et donc, j'ai mis la focale sur trois aspects. Les critères de beauté retenus, la place et le rôle des femmes et les dynamiques d'appropriation dans la représentation des identités. Donc la première partie elle met, du texte, elle met principalement en exergue le fait qu'il existe une tension, donc ça fait un petit peu écho aussi aux travaux de Pierre-Joseph Laurent, qu'il existe une tension entre le constat d'une uniformisation des modèles esthétiques au niveau international et le caractère finalement toujours temporaire de cette possible convergence des standards de beauté. Et puis, une autre tension aussi qui est mise en avant dans cette partie, c'est cette tension entre l'idée selon laquelle les modèles esthétiques sont fortement définis en fonction de critères occidentaux et le fait qu'on ne puisse pas finalement préjuger du primat des critères occidentaux sur d'autres, puisque les standards de beauté sur la scène internationale sont le résultat indéterminé, circonstancié et temporaire des incessantes en fait, interactions entre les cultures. Et donc, même s'il existe en fait, des logiques de hiérarchisation, à la fois des critères esthétiques et des modèles culturels, par exemple, lorsque un concours est qualificatif pour un concours à l'échelon supérieur et que les critères de ce concours vont constituer un avantage dans le concours situé en dessous. En même temps, même s'il existe des logiques de hiérarchisation, il y a toujours aussi des circulations qui s'opèrent et il peut y avoir aussi des inversions d'échelle, le global pouvant devenir local et le local pouvant devenir global. La deuxième partie de l'article, ce qui fait aussi écho à cette question des femmes, en fait, mais enfin explore la manière dont les femmes occupent une place centrale dans ces concours en tant que représentantes privilégiées et en tant qu'icônes des identités collectives, en particulier des identités nationales. Plusieurs travaux comme ceux de Sarah Bennett-Wazer, qui est chercheuse en communication avec un travail qui est très marqué par des études de théorie féministe, montrent comment les femmes dans les concours aux États-Unis en particulier, incarnent un idéal de féminité, de beauté, de citoyenneté et des valeurs morales qui sont finalement compatibles également dans d'autres concours avec l'identité que les nations souhaitent finalement produire et communiquer sur la scène internationale. Et donc globalement, on a de nombreux concours qui reflètent une forme d'adhésion en fait, à un certain féminisme libéral. Et cela dit, il existe des divergences entre les pays et également à l'intérieur des frontières, à l'intérieur des pays, entre différents groupes sociaux, entre différentes communautés et sous-cultures, en ce qui concerne les critères de beauté, mais aussi les conceptions du rôle des femmes et du type de corps et d'apparence physique qu'il est légitime de donner à avoir, a fortiori, dans ces événements-là. Et donc, par exemple, l'élection de Miss Monde 2002, qui était initialement prévue au Nigeria, avait finalement été annulée au Nigeria et transférée à Londres en raison d'un climat de tension qui a été analysé par le sociologue Ebenezer Obadar, qui est spécialiste des études sur l'Afrique. Et donc, le concours était déjà boycotté par certaines Miss pour condamner l'application de la charia sur une Nigérienne qui était accusée d'adultère et d'avoir eu un enfant hors mariage. Et dans le même temps, certains musulmans dénoncent le concours jugé contraire aux principes du Coran et s'opposent à sa tenue. Et donc, on a aussi une critique qui s'inscrit dans une logique anti-occidentale. Et en novembre 2002, donc juste avant la tenue de l'élection prévue initialement au Nigeria, une journaliste, Isioma Daniel, publie dans la presse quotidienne nigérienne un article titré « Miss Monde 2002, le monde à leurs pieds », dans lequel elle déclare avec une certaine ironie et provocation que le prophète Mahomet aurait sans doute choisi une épouse parmi les candidates. Et donc ça, cette parution a déclenché des émeutes meurtrières et l'annulation du concours. Donc on voit bien à travers cet exemple, puis il y en a quelques d'autres dans le texte, que les concours cristallisent finalement des fragmentations à l'intérieur des pays. Mais en même temps, on a aussi d'autres concours qui, justement, ne visent pas à représenter une identité à vocation hégémonique, si je puis dire, mais qui vont plutôt chercher à représenter une identité indigène ou ethnique ou transnationale ou un groupe minoritaire ou une communauté minorée ou racisée. Et donc, ce sont des concours qui vont justement... qui s'inscrivent justement dans l'idée de ne pas proposer un modèle de beauté universelle, mais au contraire, un modèle singulier. Et c'est le cas notamment de l'élection de... Je vous donne quelques exemples pour vous montrer aussi la pluralité des concours qu'on ne soupçonne pas forcément. L'élection de la Rabine Haro, qui est un concours organisé au Guatemala et qui est tourné vers la mise en valeur des coutumes, des traditions et de l'identité indienne. On retrouve aussi ces logiques dans des concours qui sont organisés dans des contextes de diaspora ou internationaux, où là, justement, les critères retenus sont des enjeux, justement, selon qu'ils se réfèrent au pays d'origine ou au pays d'accueil, en fait, sont vraiment des enjeux dans la production des identités transnationales. Et puis enfin, dans la troisième partie, donc j'ai de manière assez scolaire, je vous présente un peu de quoi il est question. Il est question de tout un panel de concours qui consiste à revendiquer des identités ou à mettre en valeur des caractéristiques physiques susceptibles de faire l'objet de discrimination. Je pourrais revenir un petit peu dessus, mais par exemple, des concours... sont destinés à des personnes, par exemple, queer, transgenres, transsexuelles ou gays, et vont finalement consister à représenter ces identités. Mais ces concours, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils visent aussi à faire entendre que ces personnes-là ont aussi le droit d'être des icônes, des personnes qui représentent des identités. D'autres concours sont organisés à des fins sociales ou dans l'optique de rendre compte d'une cause à défendre. C'est le cas, par exemple, d'un travail artistique que je mentionne dans ce texte de Morten Travik, qui a consisté en fait à organiser une élection de Miss Rescapée des Mines en 2008 au Cambodge et en Angola, avec des femmes qui ont perdu un membre en raison d'un contact avec une mine antipersonnelle. Et donc, le projet visait justement à rendre visibles ces femmes et à susciter un autre regard sur elles que celui de la discrimination, de la pitié ou de l'exclusion, puisque ce sont des femmes qui sont absolument marginalisées et qui ensuite, en fait, non plus, sont vraiment dans une détresse particulière dans ces sociétés. Donc voilà, pour faire bref, en termes de conclusion et de prolongement, ce que je peux dire, c'est que ce qui est intéressant aussi pour moi dans ce texte, c'était de montrer comment les concours révèlent des enjeux et des tensions autour de qui est autorisé à incarner une beauté dans un contexte donné ou à représenter une culture, un groupe ou une nation et qui en a le pouvoir, en fait. Et puis de montrer aussi comment les concours sont utilisés comme outil politique, en fait, de revendication de droit à l'égalité de traitement, à l'égalité de participation sociale ou à l'égalité, et de reconnaître aussi la pluralité de beauté possible. Donc il y a aussi quelque chose de très politique. Mais peut-être que dans les discussions, on pourra aussi faire un petit peu plus de liens sur le versant par représentation, mais aussi ce que ça dit. De la place de la beauté dans les quotidiens, quoi.
Merci Camille. Oh, je passe tout de suite le micro et la parole à Florence sur d'autres concours de beauté, à d'autres époques.
Oui, à d'autres époques. Merci beaucoup. Et merci encore d'avoir ouvert ce magnifique dossier à une historienne du monde grec antique. Et donc, je me suis retrouvée là, effectivement, parce que j'ai travaillé sur les concours de beauté dans les cités grecques, à travers l'Antiquité, et aussi sur le corps et les pouvoirs du corps. Et donc, la beauté intervient de ce point de vue-là. J'ai choisi, là, pour cet article, évidemment, une focale un peu plus réduite sur la question du... de ce qui fait consensus ou que ce qui fait polémique à propos de la beauté et à propos de la cité d'Athènes plus spécifiquement à l'époque classique, c'est-à-dire 5e, 4e siècle avant notre ère. Et pour et le point de départ en fait de ce travail, que ce soit ici ou sur les concours de beauté, c'est le fait que on est en grec deux termes qui renvoient à la notion de beauté, deux termes qui en fait c'est kalos qui veut dire beau et pour l'un d'eux, il y a un seul lambda ou un seul L, et pour l'autre, deux. Et donc, je suis partie de là, sachant que le kalos avec deux lambdas renverrait à une beauté, disons, physique plus érotique, et l'autre terme, kalos avec un seul lambda, renverrait à une beauté plus psychique, comportementale, morale, éventuellement, si on veut le dire de cette façon-là. Et du coup, je me suis... Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a un certain nombre de documents sur lesquels on peut lire « il est beau » ou « il est ou elle est belle ». Mais on ne sait pas, on n'a pas d'explication, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement ou pratiquement pas de description ou d'indication qui précise ce que signifie le fait d'être beau ou belle. Donc du coup, j'étais partie sur la question des concours de beauté pour trouver, disons, un certain nombre d'éléments qui pourraient me renseigner sur ces critères de beauté. Et le troisième élément sur cet article, c'est consensus et polémique, puisque finalement, je suis partie pour définir la beauté de ses effets et donc de ce qui fait consensus. Donc, quels sont les effets d'un corps qui est beau ou d'un visage qui est beau? Et ensuite, polémique, parce que en fait, il y a un certain nombre de discours, essentiellement d'ailleurs philosophiques et médicaux, qui reviennent sur ces corps que l'on considère ou que les Grecs considéraient comme des modèles de beauté. Donc voilà un petit peu le cadre de cette réflexion, sachant que d'une façon générale, la beauté dans ces cités grecques de l'Antiquité et à Athènes en particulier, la beauté, disons, un motif esthétique et plastique qui est valorisé, mais la beauté revêt aussi une dimension sociale, politique, on pourrait dire économique, religieuse, médicale, et qu'elle conduit de ce point de vue-là à classifier. Enfin, elle est classificatoire, donc elle conduit à classifier les individus. D'abord, les dieux face aux humains, parce que les dieux, pour les Grecs, ont une beauté, immuable, totale, d'une certaine façon, parce que la beauté permet de classer des individus, donc les hommes face aux femmes, les vieillards face aux jeunes, et ensuite, les Grecs face aux barbares, face aux autres, à ceux qui ne sont pas eux. Donc voilà, il y a tous ces éléments. Et donc, je suis donc partie, je reviens à cet article, des effets de la beauté, des éléments finalement qui faisaient l'unanimité. Et du coup, les effets de la beauté, à la fois, d'une certaine façon, le plaisir et le désir, donc ça renvoie à l'érotique, mais de l'autre côté, la sidération et la stupeur, voire la peur, être tétanisé. Donc voilà, il y avait ces éléments-là. Et ensuite, j'ai essayé de déterminer dans quelques textes qui en donnaient la possibilité, si je pouvais trouver, disons, des éléments objectifs, des critères objectifs, du côté des garçons et du côté des filles. Alors, simplement, pour m'arrêter sur le corps et non pas le visage, là, pour aujourd'hui, et du côté des garçons, en fait, pourquoi du côté des garçons? C'est parce que les Grecs, en tout cas à Athènes à l'époque classique, définissent la beauté comme quelque chose ou une valeur qui renvoie à la virilité d'un corps. Donc la beauté, elle est avant tout virile. Ça, c'est le premier élément. La beauté, deuxièmement, elle est liée à un âge, à la jeunesse. Quand un corps arrive à maturité, il est jeune et pas encore plongé dans l'âge adulte. Donc c'est juste avant d'accomplir, disons, avant que le corps n'accomplisse une transition. Alors à un âge, alors évidemment pas tout à fait à un âge, à un changement physiologique ou physique en tout cas. Troisième élément, la beauté, elle est liée à la nudité, et notamment à la nudité d'un corps qui s'exerce au gymnase, Et du coup, on retrouve cette valeur virile et masculine, puisque les gymnases, qui sont des lieux où l'on s'exerce nu, dans les cités grecques et en particulier à Athènes, ne sont pas ouverts aux femmes et ne sont ouverts qu'aux garçons. Donc, la nudité. Et une nudité sans artifice, sans phare. Donc, on a une opposition structurelle entre un corps qui est nu, masculin, et viril et beau, par opposition, disons, à un corps féminin qui est empêtré dans des vêtements, qui est maquillé, qui est fait d'une beauté, disons, artificielle, construite, puisque les Grecs ne considèrent pas que, un corps, qu'on pourrait nous considérer comme bodybuildé, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, pour eux, ça relève d'un corps, d'un exercice naturel ou d'une construction naturelle du corps. Ce qui n'est pas forcément ce qu'on pourrait penser, nous, maintenant, sur cette transformation, disons, esthétique d'un corps. Et le dernier élément qui définit, disons, de façon objective, la beauté d'un corps, c'est la juste mesure. Ni trop grand, ni trop petit, ni trop gros, ni trop mince. Un corps correctement charnu. Et là, c'est très difficile parce qu'en fait, contrairement aux concours de beauté, pour ce que j'avais pu regarder d'époque, disons, contemporaine et occidentale, il n'y a pas de mensuration. On ne donne pas de tour de poitrine, de tour de fesses, de tour de hanches, etc. Et donc, c'est la juste mesure, c'est la symétrie, c'est l'harmonie. Et cette harmonie des corps, elle est jaugée au regard, à l'œil. Donc, c'est aussi très particulier. Et éventuellement aussi au toucher. Mais bon, tout ça reste un petit peu obscur. Mais en tout cas, on a ces éléments, disons, d'une certaine façon, que l'on retrouve à travers les textes qui définissent la beauté, disons, d'un corps masculin jeune qui constitue la norme. Et à partir de là, on a un certain nombre de textes, je l'ai dit tout à l'heure, philosophiques et médicaux essentiellement, à partir de la fin du 5e siècle et au début du 4e siècle, qui discutent justement de ces critères. Parce que ces critères sont en fait des critères aristocratiques et qui renvoient en fait à la fois à la beauté du corps et à la beauté d'un comportement, ce que les Grecs appellent la kalokagathia, qui caractérise en fait un jeune homme appartenant à l'aristocratie, qui exerce à la fois des fonctions de pouvoir, des fonctions politiques, des fonctions militaires. Sauf qu'on est dans une cité qui s'est démocratisée. Et du coup, il y a un débat sur la question de qui peut être beau et est-ce que ce sont des valeurs qui peuvent être encore portés dans une cité, disons, démocratique. Et donc, il y a ces débats autour de la beauté, parce que, justement, la beauté a une dimension sociale et politique. Et donc, c'est sur la définition de qui est à la fois beau et bon, qui peut incarner ces valeurs. Est-ce que c'est le propre de l'aristocratie ou est-ce qu'un homme du peuple peut aussi acquérir, finalement, cette beauté très particulière? Le deuxième élément de débat concerne en fait l'utilité. Est-ce que c'est utile d'exercer son corps au gymnase et de pouvoir défendre la cité ainsi et de représenter ainsi les valeurs de la cité? Est-ce que ce sont des corps utiles? D'autant que, cette beauté d'une certaine façon est éphémère. La beauté des dieux est éternelle. La beauté des humains est ponctuelle. Et du coup, il y a tout un débat sur l'utilité de cette beauté et de ces corps. Et ce débat se prolonge ou est prolongé par les médecins, Hippocrate puis Galien, mais là on est au IIe siècle pour Galien de notre ère, sur la question de la nocivité de l'exercice des corps portés ou poussés pour être beaux. Et donc voilà. Donc un consensus d'une certaine façon sur ces critères qui définiraient la beauté, même si elle est très difficile finalement à cerner si l'on considère les documents dont on dispose, puisqu'on retrouve davantage d'exclamations « il est beau, elle est belle » que d'explications sur les éléments qui confèrent cette beauté. Mais quand même, à la fin du 5e siècle et au 4e siècle et ensuite, des discours ou en tout cas des discussions sur ce qu'est la beauté et sur son utilité et sur sa nocivité. Donc voilà un petit peu ce que j'ai exploré un petit peu rapidement à travers cet article.
Merci beaucoup. Alors, indécision, difficulté à définir la beauté, trouble du langage, au fond, autour de la beauté. C'est un peu aussi ce sur quoi tu as essayé de réfléchir dans ton article.
Merci, oui, d'une certaine façon, mais dans un autre contexte. Dont moi, j'étais parti d'une remarque de Laurent Martin, ici présent dans le document qu'il avait fait pour nous réunir et nous faire réfléchir. Il postulait que la beauté n'avait pas posé de problème à l'art jusqu'au romantisme à peu près, que c'est à partir du romantisme, c'est-à-dire à partir du tout début du 19e siècle, que la beauté commençait à être mise en question, mise et remise en question par les arts, et qu'à plus forte raison, dans les différentes modernités du XXe siècle, c'était chose faite. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas complètement convaincu par, pour tout dire, pas d'accord avec cette vision des choses, et que j'avais une autre vision à proposer de la beauté classique, que je vois pas du tout comme une beauté. Alors, quand j'entends par beauté classique, particulièrement la beauté telle qu'elle apparaît dans la peinture classique, et plus encore plus particulièrement dans la plus classique des peintures classiques, et globalement la peinture française des années 1630, qui a effectivement cherché à obtenir la plus grande beauté formelle possible dans ses œuvres. Mais ce dont je crois me rendre compte, et ce dont j'ai essayé de convaincre mes lectrices ou mes lecteurs, c'est que cette beauté n'a rien d'évident du tout pour les peintres qui s'y essayent, et ce pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons d'ordre, comment dire, de liées à l'état du savoir. Il y a à l'époque, dans ces années-là, pratiquement pas de théorie de l'art en France. Donc contrairement à ce qu'on peut imaginer, on pense toujours à une beauté qui répondrait à des critères parfaitement établis, etc. Mais en fait, ces critères, ils sont très loin d'être établis. Il y a un petit peu de théorie de l'art en Italie, pas tant que ça, mais elle est très répétitive. Mais enfin, quand même, elle existe à peu près depuis la Renaissance. Mais la France n'en a pas encore. Elle commence à s'en doter. Et elle commence à s'en doter essentiellement par les discours, par un corpus qui est celui des discours à l'Académie royale de peinture qui vient d'être fondé. Mais les discours, ce sont des peintres qui doivent les tenir dans des circonstances sociales pas très agréables, d'abord parce qu'ils ne sont pas du tout habitués à discourir, ensuite parce qu'ils doivent discourir en présence du ministre et en présence d'une œuvre, et donc ils le font un petit peu contraints et avec, j'ai envie de dire, très peu de mots pour le dire. D'autant moins de mots pour le dire qu'il n'y a pas encore de dictionnaire, ou presque pas. Les grands dictionnaires de français sont publiés à la toute fin du XVIIe siècle. Donc, il y a une période où, au fond, on ne peut pas ouvrir un dico et dire la beauté, c'est ça. Et une fois que quand il y aura des dictionnaires, on se rend compte que ces dictionnaires, au fond, ont des définitions très courtes de la beauté. D'abord, on parle plutôt du beau, est beau ce qui est beau, ce qui présente de la beauté. Mais alors, c'est comme ça, très, très circulaire. Et finalement, bon, ça, c'est une des premières raisons. La seconde raison, c'est qu'ils sont cherchant effectivement à produire une théorie sur laquelle se caler, ils rencontrent très vite des antinomies. Avant même de pouvoir exprimer une théorie, ils se confrontent à des antinomies. Parmi ces antinomies, il y a l'une des plus évidentes, enfin, j'en relève en particulier deux. La première, c'est celle qui oppose l'imitation de la nature, qui est quand même la grande règle de la peinture et des arts d'imitation d'une manière générale, c'est qu'ils imitent. Ils imitent quelque chose, ils imitent la nature, donc ils doivent se tenir à l'imitation juste et exacte d'un modèle. Mais ce modèle, lui, il est défectueux. Donc il est forcément défectueux puisqu'il est soumis au temps. Il n'y a pas de perfection dans ce bas monde. Donc comment établir de la beauté à partir d'un modèle que l'on doit imiter, mais qui lui-même ne présente pas toutes les beautés qu'il devrait présenter? Ils sont constamment en train de se... Et d'autant plus, je le répète, que le modèle étant pris dans le temps, quel que soit le modèle, c'est aussi bien un modèle humain qu'un modèle vraiment naturel ou qu'un objet, ceci étant pris dans le temps, ils sont soumis à toute forme de dépravation liée au temps, au fait d'être abîmé, au fait d'être... les pierres se fissurent, les fleurs se fanent, les corps se rident, etc. Donc, est-ce que l'on va représenter, par exemple, un mur ? À une époque, j'avais travaillé sur cette question, la question des fissures. Si l'on présente un mur pur, on ne le reconnaît pas comme mur, parce qu'aucun mur ne se présente comme pur, je veux dire, sans aucune aspérité. Et du coup, c'est, en plus de ça, ça, c'est une sorte de forme complètement abstraite, quasiment de monochrome dans la peinture. Certains artistes s'y sont essayés. Si on le présente fissuré, alors on introduit quelque chose qui échappe à une beauté, au beau idéal. Donc il y a cette première antinomie qui est une antinomie assez inquiétante. Il y a une deuxième difficulté à laquelle se confrontent les artistes, je pense, il me semble, c'est à celle du risque constant du désir. C'est-à-dire que si on présente de la beauté, celle-ci devient très vite désirable. On revient un petit peu à ce qui a été dit à plusieurs reprises par toutes celles et ceux qui ont parlé avant moi, mais le désir est un trouble. Or, la beauté telle qu'elle est pensée à cette époque serait plutôt de l'ordre de l'ataraxie. Donc c'est très difficile de mettre ensemble quelque chose qui provoque le trouble et qui en même temps doit être de l'ordre de l'ataraxie et de l'absence de trouble. Alors ils sont constamment en train de... Donc ce que j'ai essayé de montrer, c'est comment, à mon sens, il y a bien une beauté, bien sûr, dans l'art classique, mais c'est une beauté qui, pour eux, je pense, se construit au fond sur une très grande inquiétude. Simplement, et cette inquiétude qu'on va trouver dans le romantisme, cette inquiétude qu'on va trouver ensuite mise en crise dans toutes sortes de mouvements du XXe siècle, elle existe déjà dès le XVIIe siècle. Simplement, elle n'est pas. Il y a une sorte d'effort constant pour le surmonter. Et c'est cet effort que je trouve personnellement très émouvant dans cette peinture. C'est-à-dire que malgré tout, ils vont chercher quand même effectivement à obtenir une beauté qui est tout sauf lisse, mais qui se donne comme si elle était lisse. Alors, ce sont des choses que l'on connaît très très bien quand on est amateur d'esthétique japonaise, par exemple, y compris de la manière la plus popularisée qui soit. C'est ce qu'on dit du Japon, c'est très vrai au Japon. Et je pense je pense au fond que les maîtres du XVIIe siècle, et que beaucoup de choses d'ailleurs dans le XVIIe siècle particulièrement français ressemblent au Japon éternel et au Japon actuel, dans cet effort pour que les choses paraissent calmes alors même qu'elles ne le sont pas, paraissent ordonnées alors même qu'en fait elles ne le sont pas. C'est un peu ce que j'ai essayé de montrer, à la fois avec quelques arguments théoriques et puis en analysant quelques tableaux de français, donc de ces années autour de 1630.
Merci Nassim, et je suis heureux que cette proposition imprudente ait suscité en toi une telle érudition brillante et élégante. C'est un article que je recommande tout particulièrement à la lecture, y compris parce que je suis étrillé au début. Gentiment, bien sûr. Marco, la peinture imite la nature. Est-ce que tu serais d'accord avec cette idée en tant que jardinier ?
Ça, c'est une grande question qui s'est posée dans l'histoire de la philosophie même. Justement, est-ce que le jardin, c'est un art, justement, dans la mesure où il limite la nature. Pour Hegel, par exemple, le jardin n'était pas un art à part entière, comme la danse, parce que c'était la pure mimésis. Mais c'est un peu trop savant pour moi. Donc, du coup, j'ai abordé la question de la beauté. Mais déjà, je te félicite pour avoir pensé à ce sujet pour ton séminaire sur la beauté, parce qu'on aurait pu penser qu'il n'y avait pas grand-chose à dire sur la beauté et le jardin, ou alors de banalité sur le fait que les jardins sont jolis et beaux à voir et qu'on y va pour ça, et qu'on fait des jardins pour ça. Et en fait, pour moi, c'est un sujet très intéressant, la place de la beauté dans l'art des jardins aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que par rapport à la question de l'histoire, je fuis un peu ta question, mais aujourd'hui, comment la question de la beauté se pose, ou est-ce qu'elle se pose dans l'art des jardins ? Là, on pourrait penser que oui. Et bien sûr, la dimension esthétique fait partie de l'aménagement des jardins, mais quand on pense aux jardins qu'on fait, je ne sais pas si vous avez des jardins, moi j'ai un petit jardin en Seine-et-Marne, et là la question de la beauté est forcément centrale. Mais ça devient beaucoup plus compliqué, évidemment, enfin, ça ne vaut pas la peine d'expliquer, on plante parce que c'est beau, parce qu'on pense, on pense en termes de perspective, de, je sais pas, de couleurs, de mélange de formes, de textures, etc. Mais la question, c'est que se complique quand on passe de cet art de jardin, disons, simple, des jardiniers, en fait, d'une certaine manière, quand on passe à l'art de jardin officiel, donc les jardins que font les paysagistes aujourd'hui. Ce n'est pas forcément critique ce que je dis, c'est vraiment un constat. J'ai travaillé pendant 15 ans à peu près dans une collectivité territoriale au département des Hauts-de-Seine, à la direction des parcs et jardins et paysages. Et donc j'ai vu passer... le département de Seine est un département qui a été assez actif dans la promotion de la création paysagère contemporaine. Il y a des parcs nouveaux, il y en a pas mal, enfin, qui ont été créés au département des Hauts-de-Seine depuis, je sais pas, une trentaine d'années. Donc j'ai vu passer tous ces projets dont je ne m'occupe pas personnellement, je travaillais plutôt dans les jardins historiques, mais j'ai vu passer des projets et puis des projets qui réalisés, enfin des chantiers. Et ce qui me frappait quand je lisais les programmes de concours, par exemple, il y a toujours un concours bien sûr, ou les projets qui étaient présentés au concours par les différentes agences de paysage, de quelle manière la question de la beauté était complètement marginale. Alors, on mettait en avant, à la fois dans la demande donc, du commanditaire, de la collectivité territoriale, les collectivités territoriales jouent un rôle aussi important que le roi de France ou les mécènes, ou les princes, etc. Donc, c'est très important, en fait. Dans la demande et dans les projets qui répondent à cette demande, la question esthétique est parfaitement marginale. Elle arrive en deuxième, troisième, quatrième place. Il y a des questions qui se posent qui sont infiniment plus importantes, c'est-à-dire la dimension sociale d'un jardin, ce qui est logique en fait souvent parce que c'est des collectivités territoriales qui gèrent de l'argent public et qui pensent en termes de bien-être, etc., des usagers, comme on dit, terme assez affreux je trouve, mais bon, en tout cas c'est l'usage des jardins. Et il y a une dimension écologique de plus en plus importante. Là aussi on ne va pas contester l'importance de l'écologie aujourd'hui, c'est évident que les parcs et les jardins publics peuvent jouer un rôle fondamental dans les questions environnementales qui se posent aujourd'hui, ce sont vraiment des réservoirs de biodiversité, etc. Et il y a une dimension économique qui est très importante dans l'art des jardins aussi, c'est-à-dire que très souvent on met en avant le fait que la présence des jardins ou d'espaces verts, comme on dit, qui est encore une expression encore plus affreuse pour moi que l'expression usagée de parc et jardin, espace vert qui veut rien dire, mais c'est déjà, on voit déjà qu'il y a eu un appauvrissement, quoi. Quand on passe du mot jardin, qui a toute une histoire, toute une poésie même, mais une poésie tout à fait concrète, et quand on passe à des expressions purement... technocratique. Qu'est-ce que c'est un espace vert d'ailleurs? C'est juste un bout de territoire où il y a du vert dedans, quoi. Mais c'est pauvre surtout, et c'est ça là. Donc du coup, on améliore l'attractivité économique d'un territoire parce qu'il y a des gens qui veulent s'installer, il y a des entreprises qui s'installent et ça génère des recettes, enfin de l'argent, les impôts, etc. Et les collectivités y gagnent, tout le monde y gagne, etc. Et la question de la beauté se pose, mais c'est vraiment la cerise sur le gâteau, si je peux faire. C'est vraiment le moins important, la partie la moins importante, la moins... Évidemment, on y pense. Alors, j'en ai discuté d'ailleurs ici, la semaine dernière, on était ici avec le paysagiste Gilles Clément, que j'aime énormément. Enfin, c'est un de ceux qui nous ont vraiment aidé à penser le paysage et à penser le jardin. Mais donc il y a peut-être des petites quand même aussi des comme vous tout à l'heure. Enfin, je suis pas complètement d'accord avec tout ce qu'il dit, notamment par rapport à ça. Alors, Gilles Clément nous explique que la première tâche pour un paysagiste, un concepteur des jardins, n'est pas évidemment tout ce que je viens de dire, aussi l'écologie, mais en termes vraiment de création de milieux favorables à la biodiversité, donc favorables à la vie. C'est ça la première chose, ce qui est tout à fait évidemment logique. Enfin, mais je pense que ce sont des questions qui se sont toujours posées quand on crée des jardins. On veut que les plantes s'y sentent bien, parce qu'elles s'y sentent bien. Mais là, évidemment, il y a une dimension écologique, donc une préoccupation très forte dans l'art des jardins aujourd'hui. Donc une fois que le paysagiste a créé un espace qui fonctionne écologiquement, après, bien sûr, puisqu'il y a des gens qui viennent dans ces jardins, parce que des jardins... restent des espaces qui sont des lieux qui sont pour les gens, il faut penser aussi au plaisir de l'œil, d'une certaine manière. Donc, on a réduit la beauté au plaisir de l'œil à quelque chose d'aussi. Ça me semblait aussi marginal, ça me semble assez symptomatique d'une crise de la beauté. Je ne sais pas si on en avait parlé au séminaire, mais c'est, ou en tout cas, d'une manière de repenser la beauté. La crise de la beauté, c'est un jugement de valeur, évidemment. Moi, je vois ça comme une perte, comme une crise. Quelqu'un d'autre pourrait voir ça comme un progrès dans un autre sens. Mais cette marginalité de la beauté, c'est un fait assez nouveau, je pense, presque anthropologiquement, quoi, dans l'histoire de l'humanité. Puisque la beauté a toujours été au centre. Cette question de la juste mesure chez les Grecs, comme Ivan Illich, le philosophe, l'a expliqué, le tonos grec, a guidé finalement le regard et l'œil, et aussi la manière de faire, de construire, de bâtir, de façonner les choses de l'humanité bien au-delà du monde grec. Et elle s'est perdue dans la modernité. C'est ce besoin de... Donc la beauté a toujours été vraiment au centre de l'activité de préoccupation des hommes, des sociétés, tout en étant, bien sûr, on a toujours essayé de la concilier avec d'autres préoccupations économiques, politiques, sociales, etc., etc. Je suis tombé par hasard il y a quelques temps sur une sorte de constitution que s'était donnée la ville de Sienne, je crois au XIIe siècle, c'est pas très, très exact, c'est une citation très approximative, je m'en excuse. La ville de Sienne, dans une espèce de document qui donnait un peu, comme pour nous les constitutions, enfin qui donnait un peu les bases de la société, au premier point disait qu'il y avait un devoir de beauté pour la ville. Il fallait que la ville soit belle, et pas uniquement pour attirer les gens ou pour donner une image de richesse. Il y avait sans doute un peu de ça aussi, bien sûr. Mais la beauté était vraiment au centre du bien-être de la ville, en fait. Une ville qui n'était pas belle ne pouvait pas fonctionner. Donc même l'économie ne marchait pas, même la vie politique ne marchait pas, rien ne marchait pas, la vie sociale ne pouvait pas fonctionner. Donc il y a quelque chose qui s'est passé, cette position marginale de la beauté, de la dimension esthétique, on ne la voit pas que dans l'art de jardin, ça me semble paradoxal qu'on assiste à ça dans l'art de jardin, d'une certaine manière, mais c'est ce qui se passe dans l'art, et c'est ce qui se passe bien sûr dans la société, mais ça c'est quelque chose qui est arrivé avec la révolution industrielle, sans faire trop d'histoire, mais si on pense à la pensée de gens comme William Morris au XIXe siècle, qui est très tôt aperçu, comme c'était pas ni le premier ni le seul à percevoir ça, ben, c'est en l'aiguissement du monde, c'est une réalité, c'est pas quelque chose de purement esthétique, parce que les formes sont moins jolies, c'est profond, enfin, c'est le résultat déjà d'une séparation entre le beau et l'utile, que William Morris a identifié assez tôt comme un fait assez catastrophique. Face auquel l'art et l'artisanat en particulier pouvaient répondre. Et moi, j'étais aussi l'art de jardin. D'ailleurs, William Morris était jardinier aussi, donc il savait très bien que le jardin pouvait jouer un rôle dans ce sens-là. Donc voilà, c'est de ça que j'essayais de parler, c'est de ça que je parlais au séminaire à la Fondation des Treilles. Et ça, c'est un peu l'introduction de mon texte. Après, c'est intéressant aussi de voir comment cette dimension de la beauté, malgré tout, reste présente dans l'art des jardins, surtout quand on sort, comme vous le disiez, de l'art officiel des jardins, enfin de grands paysagistes qui, d'une certaine manière, élaborent de formes nouvelles et de formes qui s'imposent et qui deviennent le paradigme d'une époque, en fait. Et mais bon, là, du coup, on partirait dans un domaine. Je réponds mon article chapitre par chapitre, donc c'est pas la peine. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai pas abusé de mon temps.
Tu n'as pas du tout abusé. C'est moi qui vais abuser quelques instants parce que ce que j'ai essayé de faire sur les écrivains voyageurs, ça rencontre beaucoup d'échos. Enfin, ça éveille beaucoup d'échos ce que tu viens de dire. D'abord, cette idée effectivement d'une trajectoire historique. Qui mènerait de sociétés sensibles à la beauté à des sociétés où la beauté cesserait d'être centrale, deviendrait marginale, voire rejetée. Je vais tout de suite redonner la parole à mes invités. Alors, j'avais proposé pour relancer un petit peu la discussion, deux questions, mais on peut en choisir qu'une, voire les traiter très rapidement toutes les deux, sur la question d'une part de la beauté comme... point d'entrée pertinent pour comprendre une société, au fond, et donc quel l'intérêt pour les sciences humaines et sociales de cette question qui, finalement, d'une certaine façon, pourrait être considéré comme laissé à la libre appréciation, finalement, au libre jeu des goûts personnels. Donc, est-ce qu'il y a véritablement un usage intéressant par les sciences sociales de cette thématique de la beauté? Et si oui, peut-être avec quelle méthodologie? Mais donc, ça fait déjà deux questions. Et puis, une question qui renvoie peut-être à... Je dirais l'ambiance actuelle. Est-ce que la beauté est une valeur refuge, au fond, peut-être considérée comme une valeur refuge dans ces sombres temps que nous vivons? Est-ce qu'elle peut être aussi considérée comme une forme de distraction ou de divertissement, plus ou moins coupable, qui nous empêcherait de nous affronter au réel, qui nous masquerait la violence du réel, voire qui serait complice, d'une certaine façon, des phénomènes de domination, etc., et de violence qui s'exercent dans le monde. Voilà, il y a tout un débat aussi, et c'est un débat qui a occasionné un certain nombre d'écrits. Hein. J'ai pas le temps du tout de m'apesantir là-dessus, mais il y a vraiment une réflexion, une conversation, et même des polémiques, hein, entre ceux qui considèrent que la beauté, finalement, est un thème qui n'est non seulement obsolète, mais qui serait même d'une façon un peu suspect politiquement et scientifiquement, parce que, encore une fois, masquant les enjeux réels qui se présentent à nous, et d'autres qui considèrent que la beauté, finalement, est une forme de résistance à la destruction du monde, à la domination, à la violence, et que donc elle peut être valorisée comme une valeur, encore une fois, positive. Voilà. Alors, en quelques mots, oui, vraiment en quelques mots, je ne sais pas qui veut se lancer, mais vraiment très rapidement.
Si, je vois qu'il faut aller quand même assez vite. Finalement, c'est peut-être ce sujet qui est venu à moi, finalement, dans mon métier d'anthropologue. Je n'étais absolument pas, au départ de ma carrière, on pourrait dire que ce n'était pas un sujet de recherche pour moi. Mais lorsque je débarque au Cap-Vert, je vais retravailler sur les problématiques de technique de parenté. Donc je travaille sur cette société matricentrée, pas très courante, et donc pour des questions techniques de parenté. Et ce à quoi je me confronte relativement rapidement, c'est de nouveau à cette thématique de la beauté. De plusieurs manières. Mais une manière assez forte, assez étonnante pour moi, a été l'utilisation par une famille, surtout dans des familles parfois nécessiteuses, de mettre en avant, en fait, soit un jeune garçon, soit une jeune femme, pour y essayer de séduire une famille qui a du capital migratoire pour partir en Europe ou aux États-Unis. La seule manière, m'expliquait-il clairement, si tu n'es pas dans une famille qui possède tout un réseau pour pouvoir partir, c'est de réussir à ouvrir en fait ce chemin par une stratégie liée à la séduction et à la beauté. Et je me suis, franchement, au début, je ne voulais pas entendre parler de ça. C'est quelque chose que je mettais à côté. Ça ne m'intéressait pas, je ne voulais pas entendre. Mais c'est devenu quelque chose de récurrent. Et donc, mes oreilles ont été... attiré, et j'ai essayé de décrire en fait le processus dans des travaux que j'ai faits, où j'ai raconté en fait des familles qui ont voyagé dans le monde, qui sont installées ailleurs, notamment par ce mécanisme-là, finalement, d'ouverture d'un chemin migratoire, par réussir à placer un jeune garçon ou une jeune femme dans la parenté d'un autre, par une alliance ou par une grossesse, qui permettait de se retrouver finalement ailleurs. Et alors, un témoignage alors personnel sur la deuxième question, je vais vite, il n'y a pas que l'œil, même si dans les sociétés où j'ai travaillé, je vous l'ai expliqué, c'était fermer l'œil qui me disait ne plus regarder. Alors qu'on peut s'imaginer autre chose. Mais à titre personnel, pour moi, la beauté joue un rôle dans un app. Et pour moi, c'est du côté de la musique que ça se passe. Et j'ai un besoin vital de ça. Sans ça, je ne peux pas vivre, et surtout maintenant, je dirais.
Merci.
une réaction pour rebondir sur ce que vous venez de dire et sur ce que vous avez dit sur les paysages et les jardins avant de répondre aux questions que vous avez posées. Ce qui me frappe dans ce que vous avez dit, c'est que finalement, votre conception de la beauté est fondée sur la vue, le regard. De beaux jardins, c'est la couleur. Et je dirais que pour les Grecs, mais je pense aussi pour les jardins ou les paysages dont vous parlez, il y a en effet ce qu'on voit, les belles couleurs, mais il y a aussi les odeurs. Pour les Grecs, la belle prairie, ce sont les belles odeurs. C'est une prairie érotique qui donne envie. Donc, il y a les couleurs, la couleur des fleurs, la couleur de l'herbe. Il y a les odeurs qui émanent de cette végétation. Et il y a aussi les bruits. L'eau, le bruissement des feuilles. Et tout ça construit, en fait, une beauté, enfin, la beauté d'un paysage ou la beauté d'un jardin. Ou une beauté divine. Voilà, puisque la beauté est d'essence divine, voilà, sensorielle, exactement. Donc ça, c'était le premier élément sur lequel je souhaitais rebondir. Après, sur ce que vous dites sur la beauté, moi, il me semble que la beauté est bonne à penser pour, réfléchir à ce qu'est une société, et je dirais, quelle que soit l'époque et l'ère géographique, parce que, de mon point de vue, la beauté définit une norme, ou renvoie à une norme ou à des modèles, et que donc, oui, elle est variable, et que les modèles changent, mais que du coup, la beauté structure néanmoins ces changements et fait référence. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est une notion qui est bonne ou un concept qui est bon à mobiliser pour penser une société.
Comme système de normes.
Comme système de normes, en fait, et de référence. Voilà, et qui permet de hiérarchiser, classifier différemment, évidemment, suivant les sociétés, suivant les époques, suivant les aires géographiques. Mais il me semble que l'on... qu'on la retrouve, qu'on le veuille ou non. J'avais lu, alors j'ai oublié j'ai oublié le pays, parce qu'à un moment donné, j'avais participé à un colloque sur la laideur, justement, et j'avais lu un article que j'avais trouvé très amusant, parce que dans un pays africain et assez récemment, alors j'ai oublié lequel, justement, on mettait en valeur un homme qui avait gagné un concours de laideur, et qui affichait un grand sourire édenté, et qui était donc valorisé parce qu'il était le plus laid. Bon, ben voilà, on inverse les normes, mais on pense quand même la société, la beauté et ce que sont, ce que doivent être les individus. Et alors, juste très rapidement sur le dernier volet, sur l'aspect divertissement ou non, il me semble que même s'il y a cet aspect de divertissement et de joie, notamment dans les concours de beauté, ou dans, voilà, pour ne prendre que, il y a toujours un élément très sérieux sur la beauté. Alors, je reviens à mes Grecs. Il y a un certain nombre de célébrations où la beauté est attendue. La beauté des époux pour la réussite d'un mariage, la beauté d'une fête avec tout le faste, avec les vêtements, les bonnes odeurs, la musique, les couleurs, etc. Donc c'est nécessaire. Il y a l'aspect divertissement, mais c'est très sérieux. Et quand, je terminerai simplement, il y a des concours de beauté virile dans les cités grecques. On a des attestations. Donc, on produit les plus beaux hommes qui sont en armes, qui vont courir, qui vont faire beaucoup de bruit, qui vont susciter du coup à la fois désir et effroi. Mais, c'est pour la réjouissance, évidemment, pour le spectacle et la performance. Mais ça dit aussi la force d'une cité, sa magnificence, sa puissance. Et donc, on a une dimension politique. Et la dimension politique... elle est associée à une dimension peut-être de divertissement, de célébration, mais les deux sont toujours liés. Et donc, on n'a pas simplement le divertissement, qui serait, exclu de toute autre forme ou de toute autre dimension. Et je pense que c'est valable aussi bien pour l'Antiquité que jusqu'à nos jours.
Oui, j'irais aussi un petit peu dans ce sens, en effet, dans le sens de la dimension très politique, finalement, de la beauté. À mon avis, c'est vraiment un objet extrêmement important, en tout cas pour ce qui est de la sociologie, dont la sociologie s'est emparée très, très tardivement, mais je pense que, voilà, très clairement, alors que c'est quand même assez structurant des relations... Enfin voilà, sur ce qui était dit très clairement. Alors de, ouais, c'est pour le coup. Non. non, surtout dit comme ça. En sociologie, on va aussi privilégier d'autres manières de nommer, même en parlant de normes esthétiques, pratiques esthétiques. Enfin, ce qui est aussi une manière en même temps de réfléchir à la façon dont on peut appréhender cet objet, de, justement, empiriquement, avec quelle méthode. Finalement, ça permet aussi de déplier comment est-ce qu'on fait concrètement face à cet objet-là. Donc, c'est quand même aussi intéressant de réfléchir à ce que cache en fait ce mot aussi, comment est-ce qu'on peut lui donner sens. Et pour répondre à la question, pour le coup, il y a à la fois la dimension politique et que bon, moi, j'ai très mise en avant au travers des questions de représentation des identités. Mais au départ, ce qui m'avait amené à ça, à me plonger dans toute cette revue de littérature qui m'a fait voyager, c'est parce que j'ai fait une thèse sur les concours de beauté en France, essentiellement à l'échelon local, avec, en fait, pour interrogation, qu'est-ce qui fait que des jeunes femmes accordent une importance à cette dimension-là. Alors ça, c'est le premier constat. Et qu'est-ce qui fait qu'elles vont s'engager dans ce type de pratique des concours? Qu'est-ce que ça nous dit en termes de rapport au corps, rapport à la beauté, production de culture de classe, quelles aspirations elles placent dans cette pratique-là? Et donc, en même temps aussi, qu'est-ce que ça leur apporte? Comment elles parviennent à faire fructifier cette question-là, ce qui ne parle pas du tout à des universitaires, mais qui en fait est absolument central pour énormément de personnes et d'hommes de plus en plus. Alors c'était aussi disons que pour la question. Enfin,
il y a eu beaucoup de concours de beauté dans les années 80, justement, c'était des concours de beauté masculins. Et qui portait aussi toute une série de revendications des milieux homosexuels, de leur reconnaissance. Oui. Et donc, c'est passé par les concours de beauté.
Oui, oui, et puis au-delà des concours, la question de la beauté masculine commence à être traitée. Et pour le coup, y a un décalage en fait avec la beauté féminine, mais qui rend aussi compte de ce qui est plus ou moins autorisé à penser, quoi. Enfin, ce qui est plus ou moins tabou, ce qui est plus ou moins légitime ou illégitime d'investiguer. Et en effet, il y a aussi le décalage en termes de genre. Et donc, avec l'entrée par les concours, en tout cas, c'est évident que la question de la beauté permet vraiment de comprendre des sociétés, des cultures, des enjeux. Parce que pour le coup, dans les concours, tous les aspects politiques, enfin, il y a vraiment énormément d'enjeux géopolitiques, politiques qui à un moment donné sont incarnés. Je pense notamment à une élection de Miss Pérou qui avait été assez médiatisée, où les femmes, lorsqu'elles se présentent, mentionnent les chiffres des violences faites aux femmes. Toutes les candidates, en fait, ont porté publiquement les chiffres des violences faites aux femmes dans le pays. Sur scène, donc là, ça permet de toucher un public très, très large et de sensibiliser à des questions éminemment politiques, mais auprès d'un public très large. En 2022, la candidate de Miss Ukraine pour l'élection de Miss Univers avait revêti un costume de guerrière, alors très, de haute couture, mais cela dit, qui renvoyait très clairement à une forme de représentation de l'état du conflit donc voilà, et bon, je vais pas en dire plus, mais pour le voilà, j'ai encore à dire.
Dans les quelques minutes qui nous restent, peut-être donner la parole à la salle si l'un ou l'autre veut prendre la parole, poser une question, intervenir.
Je viens de face alors que je sors du dermatologue où j'ai retiré un grain de beauté, précisément, pour l'humour. Je suis tombé sur une émission assez tardive sur France Culture où un chercheur sur, justement, a pu faire une thèse et l'a développée à propos du Marquis de Sade et trouver la beauté dans l'horreur, dans le geste horrible. Est-ce que vous avez des références sur ce thème, que l'épouvantable génère de la beauté?
Je peux rebondir sur la question.
Oui, oui, c'était en réponse. Je penserais au Château de la Subversion d'Annie Lebrun, publié chez Jean-Jacques Poubert, je crois, en 82. Et puis aussi un ouvrage de Philippe Solers de 1961 qui était publié au Seuil. Voilà. Oui, ce serait une question pour Madame Guerchanoc. Donc vous avez forcément évoqué la question des sources, puisqu'il est, il est difficile d'apprécier les interprétations de la beauté dans une société qui est si distante de la nôtre et qui laisse certaines traces et pas d'autres et qu'il faut interpréter ensuite. Je pense à un ouvrage qui a été publié par cher ami Bundrick et qui parle d'un enjeu épistémologique majeur. Elle parlait de tombes en Étrurie en disant qu'on avait souvent fouillé sur certains sites les tombes, mais pas les sites de la vie courante. Et qu'il pouvait donc y avoir une différence entre le monde tel qu'on a pu l'interpréter et qui était porté, on va dire, pour l'au-delà, et le monde peut-être de la vie courante. Donc, est-ce qu'il y a des pistes qui s'ouvrent en ce moment, on va dire, dans les recherches archéologiques qui permettent d'ajouter des sources nouvelles, qui permettent de renforcer les interprétations sur des sujets aussi évanescents que la beauté ?
Et de la vie qu'on appellerait réelle, c'est ça?
Oui, et là en l'occurrence, de ce qui s'adresse à l'au-delà et de ce qu'on a pu retrouver dans des sites de la vie courante.
Je ne sais pas vraiment. Je ne comprends pas très bien votre question, en fait. Pardon, ça veut dire quoi qui s'adresse à l'au-delà? Pardon?
Ce que je sais, c'est que par exemple, dans certains tombeaux d'Étrurie, on sait que là, par exemple, la disposition à l'intérieur d'un tombeau de certaines pièces de céramique,
ouais,
comment dire, qui sont ornées d'une certaine manière, porte aussi un discours sur ce qu'on, comment dire, prépare l'entrée de la personne, on va dire, tout simplement.
Oui, enfin, on a un certain, disons que il y a un certain nombre d'objets qui sont présents dans les tombes et qui renvoient à la figure ou à l'identité du défunt, et éventuellement, du coup, à des moments de son existence. Après, je ne sais pas s'il y a vraiment une esthétisation des tombes, et la nécessité d'une esthétisation des tombes. Il y a des objets que nous, on peut trouver beaux, qui se retrouvent dans des musées, mais c'est autre chose. Enfin, en tout cas, je n'ai pas réfléchi, en tout cas moi, dans cette direction-là, à la question de la beauté. Après, vous avez des objets qui comportent un certain nombre d'images qui permettent de réfléchir aussi à la question de la beauté, à d'autres questions, et qui renvoient à la personne du défunt, en fait. Mais je ne pense pas que j'ai répondu vraiment à votre question, j'en suis désolée.
C'est toujours compliqué. Mais non, ça renvoie un peu à la discussion qu'on a amorcée tout à l'heure sur, au fond, l'époque actuelle qui serait caractérisée par, encore une fois, une moindre attention à la beauté. Après tout, l'invention du design, c'est quand même, voilà, c'est plutôt la fin du 19e, début 20e. Enfin, le fait de joindre justement le fonctionnel au beau, on ne sait pas. Oui, alors peut-être en réaction effectivement à la révolution industrielle et à une forme d'uniformisation, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ces deux mouvements, ils sont en fait parallèles et même plus que parallèles, en partie corrélés. C'est-à-dire qu'il y a aussi une forme de culture de la beauté, de culte même de la beauté aujourd'hui, qui peut-être n'existait pas auparavant.
Mais elles sont nuancées aussi. Enfin, évidemment, il n'y a pas de la disparition de la beauté. Et tout était bien avant, et la beauté dans le passé, dans le présent, il n'y a pas de beauté. Donc déjà, il faut nuancer
le discours, évidemment. Mais je voulais juste, c'était beaucoup plus modeste ce que je voulais faire, hein. Je voulais juste constater qu'il y a un déplacement de la beauté n'occupe plus une place centrale. Et ce que tu dis, le design, la valeur nouveau, etc., est né en réaction à je parlais de William Morris, c'est un peu à la suite de ça. Donc, mais ça, c'est intéressant, ce jeu de réaction, évidemment. Donc, du coup, il y a toujours de la place pour la beauté. Enfin, je ne veux pas fermer toutes les portes. Je constate juste qu'il y a eu un changement de fond, quoi. C'est assez important. Et pour terminer, parce que je vois son visage, la ville de Sienne, on s'arrête sur la ville de Sienne. Mais le fait qu'aujourd'hui on restaure, qu'évidemment c'était beaucoup plus beau qu'il y a 100 ans où il devait y avoir des ordures partout, etc. Mais c'est symptomatique, à mon avis, c'était peut-être plus beau il y a 100 ans, parce qu'aujourd'hui, les palais restaurés, c'est pour un but purement touristique. Et si tu vas à Sienne aujourd'hui, ça fait mal au cœur, quoi, d'imaginer ce que cette ville a été. Alors, la beauté est devenue quelque chose de très formel, qu'on consomme facilement. Donc, du coup, il faut que ce soit facilement consommable. Tu vas à Sienne, tu as deux jours en général. Tu ne restes pas longtemps à Sienne. Stendhal, sans doute, y passait un peu plus de temps. Tiens. Donc, il y a ça, c'est là qu'il y a eu un changement. Mais ça ouvre de la place déjà à des tas de choses qu'on peut faire, chacun de nous, et créer. Et puis, bon, il faut nuancer un peu le discours. Je parlais de l'art du paysage, j'ai fini vraiment. Évidemment, enfin, ce n'est pas aussi catastrophique que ce que je voulais le dire. Il y a des paysagistes qui déjà parce qu'ils sont jardiniers. Il y a des paysagistes qui viennent du jardin, donc du coup il y a ce rapport à la terre qui est forcément bon.
Le mot de la fin, c'est pour toi. On va s'arrêter là. Oui, alors une toute dernière avec une question.
Ouais. La notion de réserve n'existe pas.
Quelqu'un n'existe plus. Ah ben aujourd'hui, c'est vraiment interdit. Enfin, vous vous faites gifler si vous dites mauvaise herbe. Il n'y a pas de mauvaise herbe. C'est en partie, c'est vrai, quoi, parce que c'est vrai que ça ne veut rien dire par rapport à quoi une herbe mauvaise ou bonne. En plus de ça, des herbes qui sont mauvaises pour quelqu'un sont bonnes pour d'autres personnes, parce qu'il y a des gens qui continuent à manger les herbes qu'on considère mauvaises, de l'hyarterès, tout ça. Il y a des gens qui savent les utiliser et qui les mangent. Donc, mauvaise, ça ne veut plus rien dire. Donc, on a remis, ça, c'est une bonne remise en question utile, de fait.
On va s'arrêter là, vraiment. Merci à tous les intervenants, merci à tous les participants de cette soirée de présentation. J'espère que ça vous a donné envie de lire ce numéro. Et si c'est le cas, il est en vente à côté.